Interplay, l'un des meilleurs spécialistes des jeux de stratégie et de rôle, nous transforme dans Conquest of a New World en explorateur, en général et en gestionnaire. Sur le même thème que le Colonization de Microprose, Conquest of a New World nous offrira dans quelques mois une vision totalement différente de la découverte et la colonisation d'un nouveau monde. Vous jouez les Anglais, Français, Espagnols ou les expéditions de l'une des trois autres nations disponibles dans une grande aventure qui vous fera découvrir des rivières et des montagnes, des peuples autochtones sympathiques ou hostiles. Dans la version finale, six joueurs pourront s'affronter en réseau, commercer ou combattre pour la suprématie absolue. Dans une superbe représentation en 3D isométrique, donnez vos ordres simplement en cliquant sur une unité et en la déplaçant. Installez des maisons pour vos colons, développez vos cultures pour les nourrir. Gérez le bois, le fer et l'or pour faire de votre nouvelle nation la plus riche et la plus puissante. Faites évoluer vos bâtiments pour qu'ils soient plus productifs. Avec un fort, vous pourrez aussi produire de nouvelles armées et partir à la conquête des villages indiens ou des villes de vos compatriotes européens. Un petit module permet la résolution des combats de façon simple et animée. Graphiquement superbe, Conquest of a New World bénéficie surtout d'une ergonomie excellente et d'aides multiples pour des joueurs débutants. Cette version de démonstration est disponible en téléchargement sur le serveur internet de l'éditeur, mais sa taille imposante en limitera malheureusement la diffusion. Quant à la version finale, aucune date de disponibilité ne nous a été communiquée, mais on vous promet d'y revenir très très vite. Kent, après avoir découvert un mécanisme camouflé dans ses meubles, décide de mener une enquête pour découvrir les raisons de la léthargie ambiante. Les concepteurs ont réalisé une satire très poussée de notre société. Si en théorie le monde de normalité est une pure fiction, les éléments du scénario nous sont étrangement familiers. Le chômage, la télévision, la pollution font partie des problèmes de la cité de Neutropolis. Ces dérives apparaissent comme une fatalité.
C'est grâce à lui que la télé reste allumée.
On nous dit aujourd'hui que les gens regardent trop la télévision. Les concepteurs retournent le problème, regarder la télévision est un acte obligatoire.
Pourquoi est-ce que je peux pas entrer ?
Le pouvoir en place contrôle les habitants grâce à la télévision et l'information est un outil de propagande destiné à endormir la population. Les déplacements de chaque individu sont sous haute surveillance. Tout cela appelle fortement à la rébellion et on se prend vite au jeu. On explore consciencieusement la ville pour découvrir les ressemblances avec la réalité. Et les références ne manquent pas. Des affiches poussent la population à manger pour qu'elle devienne obèse. Les publicités sont des œuvres d'art au même titre que les tableaux de maître. La grève est encouragée et la productivité n'existe plus. Après une balade dans les rues désertes de la ville, on prend conscience des conséquences d'un tel mode de vie. Les habitants se ressemblent tous, ils ont perdu leur identité et sont devenus totalement apathiques. Du contrôle à la répression, il n'y a qu'un pas. La différence est marginalisée, puis déclarée indésirable car elle dérange. Kent, notre héros, refuse de se laisser imposer une ligne de conduite. Il affirme son sentiment de révolte à travers sa musique et ses vêtements, symbole de rejet des valeurs de la société. Normality est le premier jeu en forme de critique sociale. Les décors et le ton satirique nous transportent dans un univers déjà abondamment décrit et montré par le cinéma et la littérature. La révolte en 3D, ça décoiffe. Jusqu'ici, LucasArts nous avait plutôt habitués à des softs à grand spectacle. Et à la surprise générale, voici qu'arrive Indiana Jones Desktop Adventures, un petit jeu d'aventure sans prétention qui tient sur une disquette et qui fonctionne sous Windows. L'objectif du jeu est simple, vous permettre de profiter de ce que Bernuchon, le gros de la compta, soit parti déjeuner à la cantine pour squatter son PC et vous taper en toute simplicité un bon petit jeu d'aventure, vite fait bien fait, en moins d'une demi-heure. À chaque partie, l'ordinateur propose une nouvelle aventure, avec des décors, des énigmes et des personnages différents. Oh, évidemment, il ne faut pas s'attendre à des aventures extraordinaires. Le scénario se résume à trouver un objet que vous donnez à un personnage, qui en échange vous donnera un second objet qui vous amènera à un autre personnage et ainsi de suite. Cela s'appelle passer le relais. On peut trouver ça un peu primaire, mais après tout, c'est le principe de base d'un jeu d'aventure, débarrassé de tout ce qui va habituellement autour. Séquences animées, dialogues insipides, blabla d'introduction, etc. L'idée était d'épurer le genre au maximum et le résultat est une réussite. Indiana Jones Desktop Adventures fait vraiment penser au désormais légendaire Zelda, en un peu moins complexe mais avec la possibilité de créer aléatoirement des milliers d'aventures différentes. On retrouve avec plaisir l'univers d'Indiana Jones avec ses temples aztèques, ses serpents et ses tribus sauvages. On passe vraiment de bons moments à se creuser la tête pour dénicher des objets, pousser des blocs de pierre qui bloquent le passage, ou se bagarrer à coups de fouet ou de revolver contre les cruels nazis. Dernière bonne surprise, Indiana Jones Desktop Adventures sera vendu moins de 100 francs. La grande aventure au bureau est désormais à la portée de tous. Les aventuriers du temps perdu vont pouvoir s'en donner à cœur joie.
Un jour, toutes les écoles maternelles auront des CD-ROM. On peut rêver. Il vaut mieux en attendant que les parents prennent l'initiative. Avec Tim, Tom et Zoé et un prince à l'école, la classe, c'est mieux que les vacances. Pour avoir des bons points dans le premier, il faut aider Biscolo à sortir de sa boîte.
Comment vais-je sortir ?
Tim, Tom et Zoé vous aident pour les interros et chaque succès profite à ce pauvre Biscolo. Tom encourage les 4 ans, Zoé les 5-6 et Tim les grands.
Ou sur celle de Tom.
À l'école du prince, standing oblige, les devoirs sont un royal divertissement. Ces deux univers exercent les petites cervelles en les amusant et c'est bien. On se mesure à la fée logique dans Tim, Tom et Zoé pour remettre les images d'une histoire en ordre. Et si on recommence, les images changent. Un moment plus classique avec les tableaux à double entrée et c'est la récré des comptines. Le prince exerce la mémoire et vous demande de faire l'appel sans vous tromper.
Babère ?
Non, ce n'est pas moi.
Babère ?
Oui, c'est bien moi.
On aiguise le sens de l'observation avec les gâteaux du prince, pour leur rendre leur ombre ou avec les formes présentées par Zoé. On s'oriente dans un labyrinthe avec Tim. Même les petites oreilles sont sollicitées. Ici, le prince invite à rendre chaque chaussure au bruit de ses pas. C'est un prince multimédia. Là, Tom ou Zoé ont codé un message dans des biscuits d'apéritif. Dans l'un comme dans l'autre, on se prépare donc à devenir lecteur. Avec même une découverte du vocabulaire. Il est temps de se reposer avec un peu de coloriage, ou plus original, avec le tracé des constellations. Concours de billes, ou saut à la corde et lancer de papier pendant la classe. Le prince est l'idole de sa classe. Tout n'est pas clair pour un apprenti lecteur, ces mots croisés sont difficiles. Mais le merveilleux de boucle d'or rassemble tout le monde au coin de l'écran.
Très gros papa ours. Il monte à la chambre, le papa en tête comme il convient à papa très fort.
Les deux univers sont accessibles progressivement, comme une histoire qu'on découvre, ou panoramiquement pour directement choisir un jeu. On met trop la pression aux petits avec la lecture, qu'on leur prête un ordinateur. Quand ils auront sauvé Biscolo et rigolé avec le prince, en plus, ils seront savants. Vénards les petits avec leurs cyber-instincts.
Il y a eu Wolfenstein 3D, puis Doom, et maintenant Quake. Arriver derrière Doom n'est pas une mince affaire. Le nouveau bébé d'ID Software sera-t-il à la hauteur du génial Duke Nukem 3D ou de Terminator Future Shock ? Heureusement, Quake a des armes pour se défendre. Bon, sûrement pas son scénario, toujours réduit à la portion congrue, explorer un labyrinthe et tirer le premier. En revanche, les graphismes ont fait un vrai bond en avant, en tout cas sur le plan technique. Un petit bémol, cependant, cela ralentit pas mal les animations. Côté jeu, votre héros peut désormais marcher au fond de l'eau, sauter et lever ou baisser la tête. Il profite au maximum de cet univers virtuel. Dans Quake, l'espace est totalement exploité. « Le lance-grenade peut par exemple expédier ses projectiles sur une corniche située en hauteur. Le joueur pourra aussi à l'occasion anéantir une créature située sur un autre plan, tout en restant à l'abri de ses attaques. Le mode zoom est très utile dans certaines situations. Les créatures aussi se sont améliorées. Certaines sont même devenues moins stupides, capables de se transformer en adversaires redoutables pour vous pister ou se cacher en embuscade. Original aussi, comme ces zombies qui se battent en expédiant des parties d'eux-mêmes et font semblant de mourir. Saloperie. Les amateurs de gore ne seront pas déçus, quoique est encore plus violent et plus sanglant que Doom. Le mode multijoueur a été élargi, désormais 16 joueurs peuvent s'affronter en de sanglants combats, en réseau local ou sur Internet. Malgré tout, on est un peu déçu, quoique n'est pas Doom ce que Doom avait été à Wolfenstein.
Au programme de ces deux CD de musique romantique, c'est vous le chef et ça décoiffe. Un CD-ROM n'utilise pas forcément la vue ou l'ouïe. Parfois, il les cultive. C'est le cas avec la Symphonie Fantastique de Berlioz. Comment écouter une symphonie? Mesure par mesure, réponse au programme. Les mélomanes peuvent directement suivre la partition. Pourtant, ils gagneront à remarquer l'apparition de petites images quand un thème particulier est interprété. Parfois, il ne s'agit que de consulter le manuscrit original. À d'autres moments, un cours d'harmonie est illustré par le chef lui-même.
Avec un arc de lyre.
On écoute le thème sélectionné et la mise en place se fait dans notre oreille. L'oreille de l'auditeur est sans aucun doute le personnage le plus important de ce CD. Tout est là pour la servir. C'est même elle qui dirige l'orchestre pour mettre en place les grands blocs sonores. Plus de violon ou plus de cuivre, comparons avec l'orchestre. Mais pour diriger la Symphonie Fantastique, il faut assimiler un peu de vocabulaire musical. Dans le fil de l'audition, les termes descriptifs se succèdent, simplement définis. Tous les musiciens de ce CD nous changent de la prétention habituelle des critiques de musique classique. Et du coup, on comprend. C'est peut-être ça que les critiques veulent éviter. Un nouvel essai de mise en place sonore fait d'un coup entrer tout un mouvement dans la tête, avec ses nuances, ses croisements thématiques et la célèbre idée fixe de Berlioz. On lit aussi un commentaire très affectif de la passion amoureuse qui aurait inspiré le compositeur. Écoutez par exemple sa jalousie. Encore un petit stage aux répétitions du chef pour vraiment travailler les coins difficiles.
Je veux faire un petit ralenti.
Tu la tête qui tombe. Plom, 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 plom. Et timbale à 170, ni forte.
Enfin, l'écoute seule, avec une imagerie qu'on aurait pu mieux choisir. Ne boudons pourtant pas ce très beau discours amoureux et suivons l'exemple des concepteurs. Retirons-nous devant la musique. Aucun commentaire pour cet extrait, juste la passion du chef. Ce CD-ROM est annoncé comme le premier d'une collection qui pourrait s'intituler « Sous votre direction ».
En même temps, il est évident que c'est un point culminant qu'il faut faire.
Après la Symphonie Fantastique de Berlioz, suivons un deuxième concert multimédia avec la cinquième de Beethoven. Le célèbre entraîne avec lui un commentaire de musicologue bien synchronisé, mais un peu redondant. Oui, on entend le violon ici. Oui, les instruments fusionnent là. Finalement, on me répète ce que j'entends avec un grand souci d'explication. Qu'est-ce qu'un crescendo ou qu'une trille? Écoutez cette version vous transformera en érudit, peut-être un peu froid ou ennuyeux. Mais la connaissance de la musique vous passionne. Vous apprécierez la bonne biographie de Beethoven, joliment illustrée. Trois jeux résument bien ce que cherche ce programme. Développer la mémoire musicale, aider à reconnaître un extrait et répondre aux triviales poursuites. Quitte à rééditer un titre, pourquoi pas après un lifting esthétique avec tout ce qu'on a inventé depuis 2 ans ?